de l'au-delà. From Beyond est une nouvelle de Ward Philip Lovecraft, où deux chercheurs en paranormal, le docteur Protorius et son assistant, mettent au point un appareil censé stimuler le cerveau pour percevoir l'existence d'autres réalités dimensionnelles.
Le changement qui s'était produit chez mon meilleur ami, Crawford Tillinghast, était d'une horreur dépassant l'imagination. Il y avait 2 mois et demi que je ne l'avais revu, depuis le jour où il m'avait révélé l'objectif de ses recherches physiques et métaphysiques, et avait réagi à mes remontrances sidérées, voire presque craintives, en me chassant de son laboratoire et de sa maison dans un accès de colère fanatique. Je savais qu'il passait désormais le plus clair de son temps cloîtré avec sa maudite machine électrique dans le grenier où il conduisait ses recherches, qu'il mangeait peu et que même les domestiques ne pouvaient entrer. Mais je n'aurais jamais cru que 10 petites semaines suffiraient à changer et défigurer à ce point une créature humaine. Il est déplaisant de voir un homme robuste s'amaigrir subitement autant, et plus encore de constater que sa peau lâche devient jaunâtre ou grise, que ses yeux sont enfoncés, cernés, et brûlent d'un éclat inquiétant, que son front est ridé et couvert de veines, et que ses mains sont agitées de tremblements convulsifs. Ajoutez-y une crasse repoussante, une tenue totalement débraillée, une tignasse brune aux racines blanches et une barbe, elle aussi blanche, poussant librement sur un visage jadis rasé de près, et vous obtiendrez au final une vision tout à fait choquante. Et pourtant, telle était l'apparence de Crawford Tillinghast, le soir où son message à moitié incohérent m'amena à sa porte après des semaines d'exil. Tel était le spectre tremblant qui me reçut, bougie à la main, en jetant à la dérobée des coups d'œil par-dessus son épaule, comme si d'effrayantes choses invisibles étaient tapies dans sa vieille maison solitaire à l'écart de Benevolent Street. Crawford Tillinghast n'aurait jamais dû étudier les sciences et la philosophie. On devrait laisser les recherches de ce genre aux esprits froids et impersonnels, car l'homme de sentiments et de passions ne peut en tirer que 2 choses, le désespoir s'il échoue dans sa quête, ou une terreur indicible et inimaginable s'il réussit. Tillinghast, jadis, avait été la proie solitaire et mélancolique de l'échec. Ce soir-là, je compris avec une peur qui me souleva le cœur qu'il était désormais victime de sa réussite. Je l'avais pourtant mis en garde 10 semaines plus tôt, quand il m'avait dévoilé avec enthousiasme ce qu'il pensait être sur le point de découvrir. Surexcité, le teint rouge, il parlait alors d'une voix aiguë et étrange, où perçait tout de même son habituel ton pédant. « Que savons-nous, avait-il commencé, du monde, de l'univers qui nous entoure? Les moyens dont nous disposons pour percevoir les impressions sont ridiculement peu nombreux, et notre vision des objets qui nous environnent est infiniment étroite. » C'est la manière dont nous sommes bâtis qui détermine notre point de vue, si bien que nous n'avons aucune idée de la vraie nature des choses. Avec nos 5 sens limités, nous avons la prétention de comprendre l'infinie complexité du cosmos. Cependant, il se pourrait que d'autres êtres, dotés d'un éventail sensoriel plus large, plus fort ou différent, non seulement voient la réalité d'une manière très dissemblable, mais perçoivent et étudient aussi des univers entiers de matière, d'énergie et de vie, qui, bien qu'ils soient à portée de main, demeurent à jamais indétectables à l'aide des seuls sens dont nous disposons. J'ai toujours pensé que de tels mondes étranges et inaccessibles existaient tout près de nous, et je crois à présent avoir trouvé un moyen d'abattre les barrières qui nous en séparent. Je ne plaisante pas. D'ici à 24 heures, la machine que vous voyez à côté de la table émettra des ondes qui agiront sur des organes sensoriels oubliés dont nous portons toujours en nous les vestiges rudimentaires ou atrophiés. Ces ondes nous ouvriront à de nombreux panoramas inconnus de l'homme, voire pour certains inconnu de tout ce que nous considérons comme des formes de vie organique. Nous verrons ce qui fait hurler les chiens la nuit et ce qui fait dresser les oreilles des chats après minuit. Nous verrons ces choses, mais aussi d'autres, qu'aucune créature vivante n'a encore vues. Nous enjamberons le temps, l'espace et les dimensions, et sans un geste, nous scruterons le cœur de la création. J'avais protesté en entendant ce discours, car je connaissais assez bien Tillingast pour me sentir plus effrayé qu'amusé, mais ce forcené m'avait jeté dehors. S'il n'avait rien perdu de son fanatisme, son désir de parler l'avait désormais emporté sur sa rancœur, et il m'avait donc écrit un message impérieux d'une main que j'avais peine à reconnaître. Alors même que je pénétrais dans la demeure de cet ami si soudainement métamorphosé en gargouille tremblante, je fus contaminé par la terreur qui semblait se tapir partout dans l'obscurité. J'avais l'impression que les paroles et les théories exprimées 10 semaines auparavant s'étaient matérialisées dans les ténèbres, cernant le petit halo de la bougie. La voix changée et privée de substance de mon hôte me dégoûta. Regrettant l'absence des domestiques, je n'aimais pas m'entendre dire qu'ils étaient tous partis 3 jours plus tôt. Il me parut en tout cas curieux que le vieux Grégory eût abandonné son maître sans le dire à un ami aussi fidèle que moi. C'était pourtant lui qui m'avait fourni toutes les informations dont je disposais sur Tillingast, depuis que ce dernier m'avait rageusement éconduit. Toutefois, ma curiosité et ma fascination grandissante l'emportèrent bientôt sur toutes mes craintes. Je ne pouvais vraiment savoir ce que Crawford attendait de moi, mais j'étais certain qu'il avait quelque secret ou découverte extraordinaire à me révéler. Si par le passé j'avais protesté devant ses incursions contre nature dans l'impensable, maintenant qu'il avait de toute évidence rencontré une certaine réussite, je partageais presque son état d'esprit, même si le prix de la victoire me semblait terrible. Je montai dans la maison vide et noire à la suite de la bougie qui dansait dans la main tremblante de cette caricature d'homme. L'électricité était manifestement coupée, et lorsque je questionnai mon guide à ce propos, il répondit qu'il y avait à cela une raison précise.
« Ce serait trop, » poursuivit-il en marmonnant. « Je n'oserais pas. »
Cette nouvelle manie de marmonner me frappa particulièrement, car cela ne lui ressemblait pas de se parler à lui-même. Nous pénétrâmes dans le laboratoire du grenier, où je remarquai la détestable machine électrique qui émettait une sinistre lueur d'un violet écœurant. Elle était reliée à une puissante batterie chimique, mais ne paraissait pas alimentée. En effet, je me souvenais qu'au stade expérimental, elle crachotait et ronronnait quand elle était en marche. J'interrogeai Tillingast, qui grommela que cette lueur permanente n'était pas électrique, au sens où je l'entendais. Il me fit asseoir de manière à avoir la machine sur ma droite, puis tourna un bouton caché sous l'amas d'ampoule de verre dont elle était surmontée. Les crachotements habituels retentirent, et donnèrent lieu à une plainte stridente qui finit par se changer en un bourdonnement si léger qu'on aurait pu croire le silence revenu. En même temps, la luminosité augmenta, déclina de nouveau, puis prit une teinte blême et bizarre, voire un mélange de teintes que je ne saurais situer ou décrire. Tillingast, qui m'observait, remarqua mon air perplexe.
« Savez-vous ce que c'est ?
Murmura-t-il.
C'est de l'ultraviolet.
Il émit un drôle de ricanement en voyant ma surprise.
Vous pensiez l'ultraviolet invisible ? Et il l'est. Mais maintenant, vous le voyez, de même que bien d'autres choses invisibles. Écoutez-moi. Les ondes de ce dispositif sont en train de réveiller chez nous un millier de sens endormis, des sens légués par des millions d'années à évoluer de l'état d'électrons séparés à celui d'organismes humains. J'ai vu la vérité et j'entends vous la montrer. Vous vous demandez à quoi cela va ressembler, Je vais vous le dire. »
Tillingast s'assit juste en face de moi, souffla sa bougie et me dévisagea avec une horrible fixité.
« Vos organes sensoriels existants, d'abord les oreilles, je pense, vont percevoir nombre de ces impressions, car ils sont étroitement liés à ces organes en sommeil. Puis d'autres prendront le relais. Vous avez entendu parler de la glande pinéale ? Je ris à l'idée de ce qu'en disent les endocrinologues superficiels. Des parvenus, tout comme les freudiens qui les dupent. Cette glande, comme je l'ai découvert, est le plus grand des organes sensoriels. En fin de compte, c'est comme la vue. Elle transmet des informations visuelles au cerveau. Si vous êtes normalement constitué, c'est de cette manière que vous devriez presque tout percevoir. Je veux dire, presque toutes les preuves de l'existence d'un au-delà.
Je regardais autour de moi l'immense pièce mansardée au mur sud en pente. Elle était faiblement éclairée par des rayons que l'œil ordinaire ne peut voir. Les coins les plus éloignés étaient plongés dans l'ombre, et l'endroit tout entier était recouvert d'un voile irréel, qui cachait sa nature et invitait l'imagination à recourir aux symboles et autres fantasmes. Pendant le long silence de Tillingast, je me vis dans quelque vaste et incroyable temple consacré à des dieux depuis longtemps morts. Un indéfinissable édifice aux innombrables colonnes de pierre noire dressées sur les dalles humides du sol et qui allaient se perdre dans les hauteurs nuageuses, au-delà de mon champ de vision. Pendant un moment, l'image fut très précise, puis elle fit progressivement place à un concept plus horrible, une solitude totale dans un espace infini, n'offrant rien à voir, rien à entendre. Ayant l'impression de me trouver dans un vide absolu, je fus gagné par une peur puérile qui me poussa à sortir le revolver que je gardais dans ma poche la nuit depuis que l'on m'avait détroussé un soir dans l'est de Providence. C'est alors que, venu des profondeurs les plus lointaines, le son commença à se faire entendre. Il était extrêmement léger, subtilement sonore et indéniablement musical, mais par-dessus tout, chargé d'une connotation sauvage qui eut sur tout mon corps l'effet d'une délicate torture. Les sensations me rappelèrent ce que l'on ressent en griffant accidentellement du verre dépoli. En même temps monta une sorte de courant d'air froid qui semblait venir de la même direction que le bruit lointain. Alors que j'attendais en retenant mon souffle, je remarquai que le son et le courant d'air gagnaient tous deux en intensité, ce qui me donna l'étrange impression d'être attaché à des rails sur le chemin d'une gigantesque locomotive en approche. Je me mis à parler à Tillingast, ce qui provoqua la disparition de toutes les impressions inhabituelles. Je ne voyais plus que l'homme, la machine lumineuse et la pièce sombre. Tillingast souriait hideusement en regardant le revolver que j'avais sorti presque sans m'en rendre compte. Mais à voir son expression, j'étais certain qu'il en avait vu et entendu autant que moi, sinon beaucoup plus. J'évoquais dans un murmure ce que j'avais ressenti, et il m'ordonna de rester aussi calme et réceptif que possible.
« Ne bougez pas, » m'avertit-il, « car ces rayons, tout en nous permettant de voir, nous rendent visibles. » Je vous ai dit que les domestiques étaient partis, mais je ne vous ai pas dit comment. C'est cette idiote de gouvernante. Elle a allumé les lumières en bas, alors que je l'avais prévenue de ne pas le faire, et les fils électriques ont capté des ondes correspondant aux leurs. Ça a dû être effroyable. J'ai entendu les cris d'ici, malgré toutes les images et tous les sons qui me venaient d'ailleurs. Plus tard, quand j'ai trouvé des tas de vêtements vides aux quatre coins de la maison, ce fut assez horrible. Ceux de Madame Uptike étaient près de l'interrupteur de l'entrée. C'est comme cela que j'ai su que c'était elle qui avait allumé. Ils ont tous été pris. Mais tant que nous ne bougeons pas, nous ne risquons pas grand-chose. Gardez à l'esprit que nous avons affaire à un monde terrible dans lequel nous sommes, pour ainsi dire, sans défense. Pas un geste.
Le choc conjugué de cette révélation et de cet ordre brusque me paralysa, et dans ma terreur, mon esprit s'ouvrit de nouveau aux impressions venant de ce que Tillinghast appelait l'au-delà. Je me trouvais à présent au cœur d'un tourbillon de bruit et de mouvement, des images confuses devant les yeux. Je distinguais les contours flous de la pièce, mais d'un point de l'espace semblait se déverser une colonne bouillonnante de formes inidentifiables, ou de nuages, colonnes qui traversaient le toit en un point situé devant moi et sur ma droite. Alors j'eus une nouvelle vision du temple, similaire à la première, sinon que, cette fois, les piliers montaient vers un océan de lumière qui envoyait vers le sol un rayon aveuglant suivant le même chemin que la colonne de nuages que j'avais vue auparavant. Après quoi, la scène devint presque entièrement kaléidoscopique, et dans ce méli-mélo d'images, des sons et d'impressions relevant de sens inconnus, je sentis que j'étais sur le point de me dissoudre, ou d'une manière ou d'une autre, de perdre ma forme solide. Je me souviendrai toujours d'une brève vision en particulier. L'espace d'un instant, ce fut comme si je contemplais un fragment étrange de ciel nocturne, rempli de sphères brillantes et tournoyantes. Et comme il s'éloignait, je vis que ces soleils rayonnants formaient une constellation ou une galaxie de forme précise, la forme du visage distordu de Crawford Tillinghast. À un autre moment, je sentis ces choses immenses et animées me frôler ou même traverser, en marchant ou en dérivant, mon corps supposé matériel. J'eus l'impression de voir Tillinghast les regarder, comme si ses sens plus habitués lui permettaient d'en faire une interprétation visuelle. Me rappelant ce qu'il avait dit sur la glande pinéale, je me demandais ce qu'il voyait avec cet œil surnaturel. Tout à coup, je me retrouvais moi-même doué d'une sorte de sens exacerbé de la vue. Par-dessus le chaos d'ombre et de lumière, apparut une image qui, bien qu'imprécise, était dotée de consistance et de permanence. En l'occurrence, elle avait quelque chose de familier, la partie inhabituelle étant superposée à la scène terrestre normale, à la manière d'une image de film que l'on projette sur le rideau peint du cinéma. Je voyais le laboratoire mansardé, la machine électrique et la silhouette disgracieuse de Tillinghast face à moi. Mais dans tout l'espace entourant les objets familiers, il n'y avait pas une particule de vide. Des formes indescriptibles, vivantes ou non, se mêlaient dans une écœurante confusion, et chaque objet connu était cerné par tout un monde d'entités étrangères et inconnues. Il me semblait aussi que tous les corps habituels entraient dans la composition de corps inhabituels et vice-versa. Parmi les êtres vivants, il y avait principalement des monstres noirs d'encre et gélatineux qui tremblotaient mollement au gré des vibrations de la machine. Ils étaient atrocement nombreux, et je remarquais avec horreur qu'ils s'interpénétraient, que ces êtres semi-fluides étaient capables de se traverser les uns les autres et de traverser les corps que nous considérons comme solides. Ces choses ne restaient jamais immobiles, flottant en permanence de-ci de-là avec quelque intention malveillante. Parfois, elles paraissaient se dévorer entre elles. L'agresseur se jetait sur sa victime, qui disparaissait aussitôt. Je crus comprendre, non sans un frisson, ce qui avait anéanti les malheureux domestiques. Une idée que je ne pus chasser de mon esprit, tandis que, profitant de ce que le monde invisible qui nous entoure m'était devenu perceptible, je m'efforçais de poursuivre l'étude de ses particularités. Toutefois, Tillinghast, qui m'observait, reprit la parole.
« Vous les voyez ? Vous les voyez ? Vous voyez ces choses qui, à chaque instant de votre existence, flottent et s'agitent autour de vous et vous traversent ? Vous voyez les créatures qui forment ce que les hommes appellent l'air pur et le ciel bleu ? Ne suis-je pas parvenu à abattre les barrières? Ne vous ai-je pas montré des mondes qu'aucun homme vivant n'a jamais vus? »
Je l'entendais crier malgré l'insoutenable chaos et voyais son visage dément si déplaisamment près du mien. Des flammes brûlaient dans ses yeux qui me contemplaient avec ce que je savais désormais être une haine incoercible. Et la machine émettait toujours son détestable bourdonnement.
« Vous croyez que ces êtres qui flottent en tous sens ont anéanti les domestiques ? Imbéciles ! Ils sont inoffensifs. Et pourtant, les domestiques ont bien disparu, pas vrai ? Vous avez tenté de m'arrêter. Vous m'avez découragé au moment où j'avais besoin de tous les encouragements possibles. La vérité cosmique vous faisait peur, pauvre lâche. Mais maintenant je vous tiens. Qu'est-ce qui a balayé les domestiques ? Qu'est-ce qui les a fait hurler si fort ? Ah ! Vous ne savez pas. Mais vous allez bientôt le savoir. Regardez-moi. Écoutez-moi. Croyez-vous qu'il existe vraiment des choses comme le temps et la magnitude ? Imaginez-vous que la forme et la matière sont des réalités ? Vous pouvez me croire. J'ai atteint des profondeurs que votre petite cervelle ne peut se représenter. J'ai vu au-delà des limites de l'infini et j'ai fait venir des démons des étoiles. J'ai maîtrisé les ombres qui passent de monde en monde pour répandre la mort et la folie. L'espace m'appartient, m'entendez-vous ? Des créatures sont à ma recherche en ce moment même, ces créatures qui dévorent et dissolvent, mais je sais comment les éviter. C'est de vous qu'elles vont s'emparer, tout comme elles se sont emparées des domestiques. On s'agite, cher ami. Je vous ai dit qu'il était dangereux de bouger. Jusqu'ici, je vous ai sauvé en vous ordonnant de rester immobile. Je vous ai sauvé pour que vous en voyiez encore plus et que vous m'écoutiez. Si vous aviez bougé, il y a longtemps qu'elles vous auraient attrapé. Ne vous inquiétez pas, elles ne vous feront pas de mal. Elles n'en ont pas fait aux domestiques. C'est de les voir qui a tant fait hurler ces pauvres diables. Mes bêtes ne sont pas jolies, car elles viennent d'endroits où les critères esthétiques sont différents. La désintégration, ça ne fait pas mal du tout, je vous assure. Mais je voudrais que vous les voyiez. Moi, j'ai bien failli les voir, mais j'ai su m'arrêter. Vous êtes curieux. Oh, j'ai toujours su que vous n'aviez pas l'esprit scientifique. On tremble, hein ? C'est qu'on a hâte de voir mon ultime découverte. Alors pourquoi ne bougez-vous pas dans ce cas ? Fatigué ? Oh, ne vous inquiétez pas, mon ami. Elles arrivent. Regardez. Regardez, espèce d'idiot. Juste au-dessus de votre épaule gauche.
Ce qui reste à raconter est fort bref, et peut-être l'avez-vous déjà lu dans les articles du journal. La police entendit un coup de feu dans la vieille maison de Tillinghast et nous trouva. Lui mort, moi inconscient. Ils m'arrêtèrent parce que j'avais le revolver en main, mais me relâchèrent 3 heures plus tard, après avoir découvert que Tillinghast avait succombé à une crise d'apoplexie, et que mon coup de feu était dirigé contre la machine néfaste qui gisait, irrémédiablement détruite, sur le plancher du laboratoire. Je ne racontais pas grand-chose de ce que j'avais vu, de peur que le coroner se montre sceptique. Mais en entendant mon récit évasif, le médecin m'expliqua que le démon vindicatif avait dû m'hypnotiser. J'aimerais pouvoir croire cet homme. Mes nerfs fragiles iraient mieux si je pouvais cesser de penser à l'air et au ciel autour et au-dessus de moi. Je ne me sens jamais seul ni à l'aise, et quand la lassitude me gagne, j'ai l'odieuse, l'effroyable impression d'être poursuivi. La seule chose qui m'empêche de croire ce médecin, c'est que la police n'ait jamais retrouvé les corps des domestiques dont elle attribue le meurtre à Crawford Tillinghast.